Alors moi, ce qui m'avait impressionné sur la première aventure de Simon Radius, c'est l'idée effectivement d'avoir un détective psychanalyste qu'on regarde. Il y a très peu de personnages qui ressemblent à ça en BD franco-belge, pour ne pas dire aucun. En bande dessinée américaine, il y a peut-être un ou deux titres qui n'ont pas marché, et dans la bande dessinée japonaise non plus. Donc du coup, c'est intéressant de se poser la question de la réception que vous avez eue par rapport à votre... Déjà, l'éditeur, quand il a vu votre projet, il en a pensé quoi? Et qu'est-ce qu'on peut vous dire, bah, vos éventuels lecteurs, quand vous les avez rencontrés? Parce que, concrètement, c'est un type de personnage qui ne ressemblait à rien de ce qu'on aurait pu voir auparavant.
Bah, merci beaucoup, parce que c'est toujours bien quand on arrive à créer quelque chose qui change. Alors, régulièrement, je vais me baser un peu sur ce qu'on me dit, notamment en dédicace, dans les festivals, tout ça. Régulièrement, j'ai des gens qui me disent « Ah, c'est comme Le Mentaliste ». Alors bon, notre idée, elle remonte, Le Mentaliste n'existait même pas, parce que l'idée de cette BD, on l'a eue en 98, et la première publication date de 2005, donc c'était avant Le Mentaliste. Ou aussi quand on me parle de Inception, alors voilà,
oui,
mais ils voyagent
dans
les rêves.
Oui.
Voilà, ils voyagent dans les rêves, et là aussi, notre BD existait avant. Donc je pense que c'est Inception qui a copié sur nous. Mais alors pour la partie du héros psychanalyste, effectivement, alors ça a l'air d'être plutôt apprécié. On en est bien content. Notre premier éditeur avait tout de suite accroché à ça. Les suivants aussi, d'ailleurs. Et effectivement, je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Hein. Et je me rends compte qu'en dédicace, j'ai régulièrement des gens qui travaillent dans les métiers liés à la psychologie, qui sont intéressés. Et pas seulement, bien sûr, ça n'intéresse pas que ces gens-là. Mais c'est clairement un domaine qui intéresse beaucoup de monde. Et en plus, qui permet tellement de ressorts de narration, d'idées d'histoire et d'enquête qu'on aurait tort de s'en priver.
Et pourquoi avoir choisi... Ça, c'est quelque chose qui m'a étonné aussi. Alors... Là, enfin, étonné, non, ça va, je m'en suis remis, d'avoir situé l'action à l'époque contemporaine, puisque le type que représente Simon Radius et ses relations avec sa femme et puis avec son assistante, c'est quelque chose qui aurait pu complètement se passer à la fin du 19e, enfin 20e, enfin dans la grande époque de la psychanalyse. Puis surtout, ça rejoint les questions que je me pose sur votre design, sur votre dessin. Vous avez, enfin en tout cas même au niveau de du découpage de plans, il y a une sorte d'influence de la belle époque. Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui me...
Non, c'est tout à fait vrai. Alors c'est d'autant plus complètement flagrant dans le dernier album, parce que comme l'histoire se passe presque entièrement dans un château, et que l'histoire tourne autour d'un centenaire qui a des souvenirs qui remontent jusqu'aux années 20-30, alors là forcément, on est vraiment plongé, comme vous dites, dans la belle époque. Dans les histoires précédentes, c'est pas à ce point-là, mais il y a un côté passéiste, évident. Ça c'est voulu en fait, c'est justement que ça se passe dans le présent. Mais en même temps, c'est justement le fait qu'on voulait illustrer le fait que le personnage, travaillant toujours avec les souvenirs, vit dans le passé. Et a un côté désuet, et notamment il a une voiture de collection aussi. Tout chez lui est vieux, il avait un vieux téléphone. Par contre, on voit que les autres personnages, ça fait un léger contraste, on peut avoir des téléphones portables, etc. Alors, j'avoue qu'il y a aussi le fait que j'aime pas trop dessiner la technologie. Donc après, on dessine ce qu'on aime. Mais ça m'intéressait justement qu'il y ait un peu ce décalage entre le vrai monde et ce personnage qui vit un petit peu à part. Il est complètement plongé dans son travail et du coup ça le rend un peu déconnecté des réalités. Voilà. Mais c'est vrai que si on voit que le dernier album, je reconnais qu'effectivement on peut penser que ça se passe vraiment dans le passé.
Voilà, et puis je trouve même que ça lui donne même une sorte d'air d'Agatha Christie, de meurtre en huis clos.
Alors ça c'est évidemment des influences que j'aime beaucoup. Je suis fan d'Agatha Christie, de Sherlock Holmes, donc évidemment j'aime ça, hein. c'est une évidence. D'ailleurs là en ce moment avec un autre ami, Cyril Lieron, avec qui je fais le scénario sur un autre projet qu'on est en train de développer pour l'instant, on fait une BD sur Sherlock Holmes, donc voilà, les chiens ne font pas de chat. On reste dans l'enquête et j'adore le 19e siècle en plus, donc voilà, toutes les influences sont là.
Pour en revenir sur les influences, donc toute ressemblance entre l'ennemi de la première trilogie et un président américain actuel sont totalement fortuites aussi.
Alors oui, parce qu'à l'époque, on n'aurait pas pu imaginer que Trump, qu'on connaissait tous, devienne président. Donc on n'a pas pu imaginer ça. Mais effectivement, avec sa coiffure invraisemblable, son air bling-bling, on pourrait être là-dedans, hein, c'est sûr. Ouais. Oui, bah du coup, on se retrouve avec un personnage... l'ennemi juré de Simon Radius, c'est le psy des stars, John Lou Monseigneur, qui est complètement dans le bling-bling et dans les pattes. Et c'est vrai que du coup, à la fois, c'est un méchant, et en même temps, au début, on a l'impression que c'est juste une espèce de bouffon. Et puis on se rend compte petit à petit que ça va plus loin quand même.
Alors avec Erwan Courbier, donc vous êtes dans une sorte d'écriture à quatre mains, j'ai l'impression, puisque comment est-ce que vous avez découpé vos pages? Est-ce que vous avez fait un storyboard? La première fois, vous étiez effectivement sur format trilogie, donc vous saviez que vous aviez trois tomes avec un nombre de pages qui était prévu, blablabla. Bah là, vous êtes en intégrale. L'homme siècle a quand même un certain nombre de pages. Comment vous avez fait votre choix de découpage? comment vous avez fait le projet, quoi.
Alors, il faut reconnaître que pour une part, ça va peut-être pas être la réponse que vous attendez, mais ça nous a échappé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait prévu une BD en 54 pages. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, avec toutes les idées qu'on avait envie d'inclure, c'était pas possible. C'était vraiment trop dense. Donc on a étendu finalement à 66 pages. Et on a rajouté 12 pages pour que l'histoire tienne la route sans qu'on puisse la comprendre, tout simplement. Et puis sans avoir à, comment dire, à sabrer des passages juste parce que ça rentrait pas. Le format que nous ont donné les éditions Petit à Petit le permettait. Parce qu'ils nous ont dit, si vous dépassez, on peut faire 80 pages. Et comme on a envie de mettre des bonus, c'est ce qu'on a fait. Du coup, il y a des bonus à la fin, des dossiers, tout ça. En fait, c'était très libre et on pouvait vraiment faire en fonction de nos besoins. Donc c'est un vrai confort qu'on a pu avoir sur cet album. Ce qui a permis que voilà, on aurait pu arriver à 60, à 66, 70, 75. C'est tombé comme ça. Mais comme on a voulu le faire, vraiment, c'est tel qu'on l'a voulu.